France Musique. Musicopolis.
janvier 1937, Bâle. Le concert de ce 21 janvier 1937 va avoir un énorme retentissement. Dès le lendemain, le journal national de Bâle lui consacre un article. Cette mémorable soirée devait prendre un relief exceptionnel grâce à la première audition de la dernière œuvre de Béla Bartók, à qui la musique contemporaine doit peut-être, en même temps qu'à Schoenberg et Stravinsky, ses idées les plus novatrices. On a pu se rendre compte que le compositeur était au zénith de sa carrière. Après le dernier mouvement, signale le journal de Bâle, un allegro à l'élan irrésistible et qui surprend par son éclat à la fois harmonique et diatonique, éclatèrent des applaudissements comme n'en recueillent d'ordinaire que les interprètes qui ont la faveur du public. Il était saisissant de les entendre s'adresser à un compositeur, et encore à un compositeur vivant, qui passe pour un novateur discutable. Il semble incroyable d'admettre que le petit homme malingre aux cheveux d'argent qui, en s'inclinant de façon presque timide, remerciait le public, l'orchestre et le chef pour leur enthousiasme partagé, puisse avoir à ce point le diable au corps. C'est ainsi que se produisit quelque chose à quoi l'on assiste rarement dans notre vie musicale si conventionnelle. Le public finit par obtenir que le dernier mouvement fût répété. Bien sûr, Bartók est à Bâle pour la création de sa nouvelle œuvre, La musique pour cordes, percussions et célesta, le 21 janvier 1937. Le lendemain, il écrit à son épouse Dita. Le concert s'est déroulé avec un succès bruyant. Le dernier mouvement a été bissé. Les musiciens ont assez bien travaillé, ils se sont donné beaucoup de mal. Le chef d'orchestre s'est montré compétent. Par ailleurs, tout va bien. J'ai même écrit ma conférence pour Amsterdam et j'ai commencé à la taper à la machine. Le seul ennui, c'est qu'il me faut faire des mondanités. On m'invite ici à déjeuner, là à dîner, alors que justement je supprime tout cela à Budapest, je me rattrape largement ici. Hier, j'ai visité une exposition constructiviste. Les choses étaient plus laides les unes que les autres. Je me suis même procuré le catalogue illustré. Tu pourras savourer ce qu'il y a dedans. Le chef d'orchestre Paul Zacher a eu 30 ans en 1936. Voici alors juste 10 ans qu'il a fondé son orchestre de chambre de Bâle et il entend bien célébrer cet anniversaire. Paul Zacher a les moyens de ses ambitions. Époux de l'héritière de la plus grosse fortune industrielle de Suisse, il sait être un mécène généreux. Récemment, il s'est enthousiasmé à l'écoute du 5e quatuor de Bartók et il a décidé de lui passer commande pour cette occasion. Mais son admiration pour le compositeur est bien plus ancienne. Depuis l'âge de 20 ans, depuis la fondation de son orchestre en 1926, Zacher s'intéresse à la fois à la musique ancienne et à la musique contemporaine. Bien sûr, il a entendu la musique de Bartók, qui est considérée comme une valeur montante de la musique nouvelle. Surtout depuis qu'en mai 1925, sa suite de danse a été donnée à Prague au cours du Festival de la Société internationale de musique contemporaine. La maison d'édition Universal va désormais faire la réclame de la partition avec ce slogan « Le plus grand succès du Festival de musique de Prague en 1925 ». La popularité qu'a connue la suite de danse de Bartók après son audition à Prague en 1925 est à peine imaginable aujourd'hui. Elle a été jouée au moins 150 fois en Europe dans les quelques années qui ont suivi, y compris en Suisse bien sûr. Paul Zacher ne pouvait pas y échapper. D'autant plus que le compositeur hongrois était maintenant invité à bien d'autres festivals, comme celui de Francfort en juillet 1927 où il crée son premier concerto pour piano. En 1929, les deux hommes ont enfin l'occasion de se rencontrer à Bâle lors d'un concert entièrement dédié à Bartók et où il interprète notamment son Allegro Barbaro. Après avoir entendu Bartók à son concert de janvier 1929 et après lui avoir été présenté, ce qui a produit en lui grande impression, Paul Zacher a commencé à jouer la musique du Hongrois avec son orchestre de chambre de Bâle, les danses populaires roumaines, puis en 1935, le deuxième concerto pour piano, avec Bartok lui-même au piano. C'était une suite logique que de lui passer commande d'une œuvre pour les 10 ans de son orchestre.
Je lui ai demandé d'écrire une œuvre pour le Kammerorchester en 35 environ, je dirais. Et il nous a écrit la musique pour cordes, piano, batterie, etc. Une œuvre qui est devenue une des plus grandes œuvres de notre siècle.
Lorsque Paul Zacher écrit à Bartok pour lui passer commande d'une œuvre pour son orchestre de chambre de Bâle, il lui donne un certain nombre de précisions quant à ce qu'il devra livrer. Chacun des morceaux devra durer environ 15 minutes. L'effectif envisagé est celui de notre orchestre, qui consiste en un ensemble de 30 cordes environ. Nous devons louer les vents à l'orchestre municipal, ce qui se heurte souvent à des difficultés techniques, sans compter les conséquences financières. Il y a la possibilité d'ajouter un piano ou un clavecin, en quelque sorte comme continuo, ou n'importe quel instrument de percussion. Zacher écrit à Bartok pour lui commander une nouvelle œuvre le 23 juin 1936. Bartok reçoit la lettre sans doute le 24 ou le 25. Il répond quasi instantanément, postant son accord de principe le 27 juin. « Je pense, écrit-il, à une pièce pour cordes et instruments percussifs, c'est-à-dire, hormis les cordes, piano, célesta, harpe, xylophone et percussion. Je suppose que leur emploi ne se heurtera à aucune difficulté. » Du coup, il devient toutefois plus délicat d'exaucer votre souhait que l'œuvre ne soit pas trop ardue. Pour ce qui est des difficultés techniques, selon toute probabilité, on pourra les surmonter. Mais il est plus compliqué d'éviter les difficultés rythmiques. Lorsqu'on écrit quelque chose de nouveau, le fait même de ce caractère inhabituel est source de difficultés pour les interprètes. En tout cas, je m'efforcerai d'écrire le plus simplement possible. Je n'écris jamais délibérément dans le but d'accumuler un maximum de difficultés d'exécution. Pour que Bartok ait répondu si rapidement à Paul Zacher, on peut peut-être imaginer qu'il avait déjà une idée du genre d'instrumentation qu'il avait envie d'expérimenter. Ce qui expliquerait aussi qu'il ne mette que 3 mois pour arriver au bout de l'œuvre. Paul Zacher, au micro d'Alain Paris en 1980, se souvient de la manière de composer de Bartok.
Oui, il composait probablement tout le temps dans sa tête et quand il écrivait. Ça allait très vite, comme chez Mozart. Mozart avait ses compositions tout finies dans la tête et ce qu'il fatiguait, c'était de l'écrire sur du papier. Peut-être c'était la même chose avec Bartok. Comme personnalité, il était fascinant. Bartok était un homme qui ne faisait jamais un compromis. Il n'était en réalité pas de ce monde. C'était une sorte de saint. Il était vraiment pur, d'une certaine naïveté qui était sympathique. Et en même temps, c'était un homme d'un intellect très développé, naturellement.
Bartok va concevoir sa musique pour cordes, percussions et célesta en 4 mouvements. Il l'appelle « musique » parce que c'est le mot qui répond le mieux à son projet. Ce n'est ni une symphonie, ni une suite, ni rien d'autre de connu. Chacun des mouvements a une personnalité et une forme totalement différents. Le plus frappant est sans doute le troisième, « Adagio ». l'un des plus beaux exemples de musique nocturne que Bartók ait composé, avec ses bruits d'insectes, ses fourmillements et son angoisse latente. Bartók ne peut arriver à Bâle que deux jours avant la création de la musique pour cordes, juste pour les dernières répétitions. Il écrit à son épouse « Contrairement à ce que j'attendais, les choses se déroulent bien, presque à la perfection. Nous avons beaucoup répété et avec un grand soin. Au total, ils disent avoir consacré 25 répétitions à cette œuvre. Chefs et orchestres ont tous travaillé en me témoignant toute l'affection et tout le dévouement possible. Ils se montrent très enthousiastes à propos de l'œuvre, moi aussi. Certains détails se révèlent plus beaux et plus étonnants que ce que j'avais imaginé. Il y a vraiment des sonorités très inhabituelles dans cette pièce. »
Il est venu pour la création, il était présent pour quelques répétitions. Il s'intéressait surtout à des questions techniques un peu spéciales. Par exemple, pour l'exécution des pizzicati, c'était un musicien qui dominait tout, absolument tout dans sa partition. Il savait très bien ce qu'il écrivait, il savait très bien comment ça devait sonner et il insistait. Il ne parlait pas grand-chose pendant les répétitions, il remerciait l'orchestre et moi à la fin de la dernière répétition. Il semblait content. L'exécution de cette œuvre était un triomphe pour tout le monde, surtout pour lui, évidemment. Et c'est étonnant. On a tout de suite reconnu que c'était une très grande œuvre. C'était le public qui le sentait et c'était les critiques qui le disaient.
Le final Allegro Molto de la musique pour cordes, percussions et célesta de Béla Bartók, l'Orchestre Philharmonique National de Hongrie, dirigé par Zoltán Kocsis. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Jean-Michel Bernot pour le mixage.
réécouter sur francemusique.fr.